soir, nous allons donc, Dieu, nous venons de nous exprimer devant lui, nous venons de lui parler. Le moment arrive où chacun de nous doit se taire et tendre une oreille attentive à ces dieux-là, afin de l'écouter, afin de recevoir sa parole. Et pour cela, je voudrais que chacun de nous incline sa tête dans la prière. Nous venons de chanter, nous avons prié. Maintenant, adressons au Seigneur une prière toute simple. Demandons-lui de nous parler, de déposer sur nos cœurs quelque chose qui vient de sa part. Demandons-lui de poser sa main sur son serviteur, afin qu'il puisse, par cette intervention, apporter à chacun de nous ce qui vient de la part de Dieu, et que cela puisse trouver un écho positif auprès de chacun de nous. Avec reconnaissance, nous voulons en cet instant, Seigneur, te remercier pour ce privilège une fois de plus, de pouvoir méditer ta parole, de pouvoir, Seigneur, nous tourner vers toi, ô Dieu, pour recevoir depuis la salle du Saint-Trône une parole, Seigneur, dont notre vie a besoin. Recevoir de toi, Seigneur, ce qui vient de ta part. Notre vie est appelée à croître comme le palmier. Notre vie est appelée, Seigneur, à bourgeonner, à fleurir et à porter beaucoup de fruits. Et pour cela, Seigneur, notre vie a besoin d'être constamment exposée à ta parole. Pour cela, notre vie a besoin, Seigneur, de baigner dans une atmosphère marquée par ta parole. Nous avons besoin ce matin, Seigneur, de ta parole et nous prions, ô Dieu, nous te demandons, Seigneur, avec insistance, de nous parler ce matin, de nous donner ta parole et que cette parole puisse faire du bien à chacune de nos vies, que cette parole puisse, ô Dieu, nous donner l'intelligence, celle qui vient de l'Esprit, qu'elle puisse nous rendre sages à salut, sage pour pouvoir prendre des décisions et faire de choix qui nous permettent, Seigneur, de nous approcher davantage de toi et de nous maintenir dans la voie que tu as tracée pour chacun de nous. Bénis ton serviteur, bénis ton peuple, Seigneur, et parle-nous. Nous te tendons une oreille attentive. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, je voudrais aborder deux moments importants. Je voudrais parler de deux périodes importantes, parler de deux expériences importantes qui ont été une réalité pour Israël, une réalité pour certains héros de la foi, mais aussi réalité pour la plupart d'entre nous, car que nous le voulions ou pas, eh bien, il nous arrivera de connaître de tels moments, ces deux moments importants. Et ce moment, ces deux expériences, ces deux périodes, eh bien, sont exprimées par notre thème de ce dimanche matin. Notre thème de ce matin est Ichabod ou Ebenezer. Alléluia. Ichabod. Vous voyez, pour certains, ils vont avoir de la peine à écrire ça. Ichabod ou Ebenezer. Alors, nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 7. À partir du premier verset jusqu'au verset 14. Nous lisons 1 Samuel, premier livre du prophète Samuel, chapitre 7, à partir du premier verset, nous lisons. Les hommes de Kiriath-Yéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la transportèrent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche du Seigneur. Il s'était passé bien de jours depuis le jour où l'arche avait été installée à Kiriath-Yéarim. 20 années. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers le Seigneur. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers le Seigneur, servez-le lui seul, alors il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les Israélites ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent le Seigneur seul. Samuel dit, « Rassemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai le Seigneur pour vous. » Ils se rassemblèrent à Mitzpah, puisèrent de l'eau et la répandirent devant le Seigneur. Ils jeûnèrent en ce jour. C'est là qu'ils dirent, « Nous avons péché contre le Seigneur. » Samuel jugea les Israélites à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpah, et les ducs des Philistins montèrent contre Israël. Les Israélites l'apprirent et eurent de la crainte devant les Philistins. Les Israélites dirent à Samuel, « Ne garde pas le silence, mais crie pour nous, Seigneur notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria au Seigneur pour Israël, et le Seigneur lui répondit, Alléluia. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. En ce jour, le Seigneur fit retentir le tonnerre à grand bruit contre les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chen, ou Ren, et il appela du nom de Ben-Ezer en disant, « Jusqu'ici, jusque maintenant, le Seigneur nous a secourus. » Ainsi les Philistins furent humiliés et ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main du Seigneur fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël revinrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins, et il y eut la paix entre Israël et les Amoréens ou les Amorites. Amen. Gloire au Seigneur. Alors pour ceux qui prennent note, bien, si vous voulez voir l'orthographe de cette expression Ikabod, donc vous allez dans 1 Samuel 4, verset 21, et l'appela le garçon Ikabod en disant la gloire est bannie d'Israël, à cause évidemment de la prise de l'arche du Seigneur, le Dieu d'Israël. Amen. Gloire au Seigneur. Ikabod, ou alors Ebenezer, la pierre du secours. Je voudrais donc parler de deux moments importants dans l'histoire d'Israël. Et au-delà de l'histoire d'Israël, je voudrais amener chacun de nous à réaliser que cette expression Ikabod, la gloire est bannie, ou alors où est la gloire, est plus qu'une expression, est plus que des mots utilisés par la parole de Dieu pour exprimer un état terrible, un état de crise dans lequel, eh bien, Israël venait d'entrer avec toutes les conséquences terribles, eh bien, qui s'en suivirent. Mais cette expression, comme du reste Ebenezer, sont donc deux périodes importantes, deux moments, deux expériences, deux états dans lesquels, eh bien, le peuple de Dieu va se retrouver. Et au-delà d'Israël, je voudrais que chacun de nous comprenne que Ikabod, plus que l'expérience d'Israël, est aussi une période dans laquelle nous pouvons nous retrouver après avoir fait des choix en amont, après avoir pris des décisions, eh bien, terribles, une période difficile. Eh oui. Et quelquefois, malgré nous, malgré notre consécration. Vous le savez tous, frères et sœurs, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Oui ou non? La vie est pleine de surprises. Le soleil ne brille pas toujours dans le firmament, dans le ciel de notre existence. Il arrivera, il y aura des moments où nous connaîtrons toutes sortes de crises, toutes sortes de tempêtes, des moments où nous serions sérieusement secoués par des situations adverses, où nous serions confrontés à toutes sortes de difficultés, à toutes sortes de problèmes, des moments où il y aura des orages dans notre vie, des nuages de plus en plus épais et noirs qui assombriront, eh bien, le ciel même de notre existence, des périodes où nous aurons l'impression que le ciel est fermé au-dessus de nos têtes. Des périodes de tribulation, des périodes de crise, des périodes où nous rencontrons toutes sortes de revers, où nous expérimentons toutes sortes de choses terribles qui nous font pleurer, qui nous font souffrir. Et cette période-là, mes amis, où dans la plupart des cas nous broyons du noir, peut être appelée la période Ichabod en référence à l'expérience qu'a faite Israël au début du livre de Samuel. Gloire à Dieu. Alléluia. Une période difficile. Une période, eh bien, remplie de toutes sortes d'interrogations par rapport à notre présent, par rapport à notre futur. Une période où nous avons l'impression de tourner en rond, où la boussole qui nous indiquait le nord, eh bien, perd le nord. Nous ne savons plus où aller. Nous sommes comme à un carrefour, ne sachant où aller. Voyez-vous? Et dans cette période-là, de questionnement, dans cette période de difficultés, dans cette période d'épreuve, eh bien, cette expression Ichabod va nous accompagner, va être une réalité, comme pour Israël. Ça a été un moment terrible. Ça a été, mes amis, une expérience terrible. Et s'il y a une expression qui résume l'état dans lequel se trouvait le peuple de Dieu à cette époque-là, c'est bien cette expression Ichabod, qui veut dire la gloire. La gloire est partie d'Israël. La gloire est bannie d'Israël. Ou alors, ça peut avoir aussi un sens interrogatif. Ça peut être une manière d'interroger la providence en disant, où est la gloire? Celle qui était toujours présente. Où est la gloire? Où est celui qui était toujours là à nos côtés pour nous faire du bien? Ou hélas, la gloire. C'est donc une période où tout est noir. Tout est noir autour de nous. Une période où nous nous posons toutes sortes de questions. Et je suis convaincu qu'il y a des gens au milieu de nous. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui nous suivent à travers la télévision ou à travers la radio Parole Éternelle qui peuvent se retrouver dans cette période des Ichabod. Une période, mes amis, où rien ne va. Une période où nous tournons en rond. Une période où tout reste fermé au-dessus de nous. Une période où nous arrivons même à nous poser la question si nous sommes ou nous continuons encore à être sauvés. Une période terrible, anxiogène. Une période où nous allons d'échec en échec, où la défaite devient notre partage de tous les jours. Une période où le succès et la réussite, eh bien, ne sont toujours pas au rendez-vous. Une période d'humiliation, voyez-vous, une période de larmes, de pleurs, de douleurs et de malheurs. Cette période correspond à la traversée du désert. Cette période correspond donc à ce moment difficile que nous pouvons rencontrer, à une expérience que nous pouvons faire là, au désert, alors que nous sommes en train de le traverser, une période que tout un chacun peut expérimenter et peut connaître, ou peut-être que chacun de nous, ou certains d'entre nous, connaissent déjà. Cette période peut surgir à n'importe quel moment. Elle peut arriver tout naturellement, et ce malgré notre engagement vis-à-vis du Seigneur. Et ce, malgré une vie marquée par l'obéissance à Dieu, Et c'est malgré notre intégrité envers le Seigneur. Et ce, nonobstant, eh bien, notre engagement vis-à-vis de notre Sauveur bien-aimé. Malgré tout cela, eh bien, cette période peut tomber sur nous comme une pluie torrentielle. Rappelez-vous de Job. Voyez, cet homme auquel la Bible rend un très très bon témoignage et rend en même temps hommage, la parole de Dieu déclare que Job était un homme intègre. C'était un homme qui marchait dans la crainte de Dieu. C'était un homme qui était droit. C'était un homme qui cherchait par tous les moyens, autant que faire se peut, à plaire à son Dieu, à réjouir le cœur de son Créateur. Et il y était arrivé, car non seulement la parole de Dieu lui rend cet hommage, reconnaît dans Job un modèle d'intégrité, un modèle de droiture, un homme juste, un homme dont Dieu et sa relation ou sa communion étaient une priorité pour lui. Voyez-vous? Mais Dieu lui-même lui rend aussi cet hommage devant ces êtres, eh bien, célestes. Il n'a pas hésité à dire, en parlant de Job, qu'il n'y avait personne sur cette terre comme Job. Quel témoignage, alléluia. Personne comme Job. Et dans son intégrité, eh bien, la prospérité l'accompagnait. Ses entreprises prospéraient. Voyez-vous, le succès, la réussite étaient au rendez-vous. L'homme allait de l'avant. L'homme marchait avec le Seigneur. L'homme, eh bien, restait attaché à son Créateur. Mais la parole de Dieu nous dit que malgré son intégrité, bien que craignant le Seigneur, cet homme a été sérieusement éprouvé. Cet homme, mes amis, a connu toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de souffrances. Voyez-vous, la souffrance que cet homme a connue, l'épreuve qu'il a rencontrée, les différents obstacles qu'il a connu dans sa vie n'était pas la conséquence d'un quelconque péché commis dans sa vie ou autour de lui, pas du tout. Cela lui est arrivé malgré, comme je viens de le dire, son intégrité, malgré son engagement, malgré sa consécration au Seigneur. Les épreuves vont tomber sur lui les unes après les autres. La souffrance, le malheur va être son partage pendant un laps de temps assez long. La Bible ne nous dit pas combien de temps l'épreuve ou les épreuves de Job ont duré. Tout ce que nous savons, que cet homme est passé aussi par cette période de Ichabod, où finalement celui qui faisait son honneur, celui qui faisait qu'il ait de la valeur, qu'il ait du poids aux yeux des autres, qu'il lutte contre ses adversaires et qu'il marche sur eux, eh bien, dans cette période-là, Job se retrouvait quasiment seul. Voyez-vous? Seul. À la merci du diable. Seul. À la merci des forces de la nature. Seul en face de toutes sortes d'adversités. Il a commencé par perdre ses troupeaux. Tout son cheptel est parti. Voyez-vous? Ensuite, son personnel, ses serviteurs sont partis, sont morts. Il a perdu tout son troupeau, ou tous ses troupeaux, car il avait plusieurs, des chameaux, du menu bétail, du gros bétail, etc. Ses serviteurs sont morts. Ça ne s'est pas arrêté là, mes amis. Ses propres enfants sont morts également. Ensuite, sa santé physique a commencé à décliner jusqu'à ce qu'il attrape une sorte d'ulcère malin. C'était peut-être une sorte de lèpre ou de gale. Car à un moment, il a dû utiliser un tesson pour pouvoir gratter son corps. Voyez-vous, tout son corps était envahi par cet ulcère malin. Du pied jusqu'à la tête. Une période difficile. Une période où tout était noir autour de lui. Voyez-vous, une période d'Ichabod. Il a dû certainement se poser la question, où est la gloire de celui qui me soutenait par sa main et par sa droite puissante? Celui qui me donnait de prospérer à tous égards. Celui qui faisait que je rayonne aux yeux de mes adversaires. Où est-il? Les épreuves s'accumulent les unes après les autres. La souffrance est mon partage. Où est-il ce Dieu d'Israël? Ichabod, oui, il est entré dans cette expérience malgré lui. Voyez-vous, la gloire ne l'a plus environné. Donc, elle peut nous arriver cette période tout naturellement, malgré notre attachement au Seigneur. Mais elle peut aussi arriver, c'est-à-dire cette période peut être là parce que nous avons choisi, nous avons fait des choix qui nous mettent en porte-à-faux avec la parole de Dieu. Nous avons choisi de désobéir, consciemment ou inconsciemment, à la parole du Seigneur, de mépriser ses commandements, de transgresser sa parole. Et à cause de tout cela, nous pouvons nous retrouver dans cette situation, dans cette période, mes amis, dans cet état que la parole de Dieu résume par cette expression « Ichabod ». C'est ce qui est arrivé à Israël. Israël a fait de mauvais choix. Israël a pris des décisions qui l'ont amené à entrer dans cette période sombre, dans cette période d'humiliation. Des choix en amont qui ont entraîné des conséquences négatives en aval. Des choix en amont, des décisions prises en amont qui vont avoir des répercussions terribles en aval. Voyez-vous, car en aval, eh bien, Israël va être humilié par ses ennemis, par ses adversaires. Israël va souffrir. Israël va ramer. Voyez-vous, Israël va être confronté à toutes sortes d'humiliations. Ichabod. Voilà l'expression qui résume ce qui est arrivé à ce peuple. Donc, cela n'est pas arrivé au hasard. Voyez-vous, ils ne se sont pas réveillés comme ça, comme par enchantement, et puis tout d'un coup, les choses ont commencé à se dégrader, à se déliter, à s'éroder, pas du tout. C'est parce qu'ils avaient fait de mauvais choix. C'est parce qu'ils avaient désobéi au Seigneur. C'est parce qu'ils avaient méprisé sa parole. Si vous voulez avoir une idée de ce qu'était la société à cette époque-là, si vous voulez avoir une idée sur la condition morale et spirituelle d'Israël à cette époque-là, vous n'avez qu'à lire le chapitre 2 de ce même livre. Et vous allez voir que et le clergé, c'est-à-dire les membres du sacerdoce, et le peuple lui-même, tous, eh bien, baignés dans une vie immorale, dans une vie de désobéissance manifeste, tous transgressaient la parole de Dieu. Voyez-vous, mes amis, on finit toujours, tôt ou tard, par récolter ce qu'on a semé. Cette période est arrivée à Israël parce que lui-même avait choisi de ne pas marcher selon la parole de Dieu, de mépriser le commandement du Seigneur. Deux personnes, eh bien, illustrent parfaitement la situation morale de cette époque-là. C'est Ophni et Phinéas, deux sacrificateurs, voyez-vous. Deux personnes qui étaient donc chargées de servir le Seigneur et de servir d'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Ces deux personnes, eh bien, nous sont présentées par la parole de Dieu comme étant des vauriens, des hommes sans morale, des hommes qui menaient une vie de débauche, une vie scabreuse, des hommes qui n'avaient aucun égard par rapport à la parole de Dieu, qui n'avait rien à cirer avec Dieu. Voyez, ils avaient poussé trop loin le sacrilège, le mépris de Dieu et des choses de Dieu. La Bible nous dit qu'il leur arrivait même de coucher avec les femmes qui venaient à la maison de Dieu. Vous vous rendez compte? Quelle débauche! Quelle légèreté! Quelle inconséquence! Mes amis, dans le chef de ces serviteurs-là, quelle incurie pour eux. Ces hommes qui avaient été mis à part pour servir le Seigneur. Et à cause de tout cela, à cause de la conduite, non seulement du clergé, non seulement de ceux qui était dans le sacerdoce, qui avait la sacrificature, mais à cause aussi du peuple, eh bien, cette période, Ichabod, va devenir une réalité et elle va durer pendant 20 ans. Pendant 20 ans, Israël va souffrir. Voyez-vous? Pendant 20 ans, la gloire est partie avec la prise de l'arche du Seigneur au cours d'une guerre contre les Philistins. Cette arche qui était le symbole de la présence de Dieu parmi eux, eh bien, la gloire est partie. La gloire s'est levée et puis est partie. Et par conséquent, Israël se retrouvait seul face à son destin. Seul face à ses adversaires. Et Dieu seul sait combien il y en avait. Autour de ce peuple de Dieu, il y avait cette confédération philistine, composée de 5 grandes cités, avec à sa tête un duc ou un prince. Ils s'étaient coalisés pour pouvoir humilier le peuple de Dieu. Tout cela pourquoi? Parce que la gloire avait été bannie. Parce que la gloire était partie. Alléluia. Ichabod, période sombre pour ce peuple. La gloire est partie. Avant d'aller plus loin, il est peut-être important et pertinent que je m'attarde un tout petit peu sur cette notion même de gloire. Voyez-vous? Lorsque la Bible nous dit que la gloire est partie, de quoi veut-elle parler? Cette gloire qui était présente de par la présence de l'arche du Seigneur, de ce coffret. Quand il est question de gloire, à quoi pensons-nous? Voyez? Quelle est la pensée qui traverse notre esprit lorsque nous parlons de gloire? Dans la plupart des cas, pour aller plus vite, c'est que dans notre tête, à chaque fois que nous pensons au mot gloire, c'est la pensée, la notion de brillance qui fleure notre esprit, notre pensée, oui ou non, de brillance, de grande lumière, n'est-ce pas? Nous pensons à l'apparence lumineuse, à la brillance, à la parure resplendissante, la gloire de Dieu. On s'attend à ce que sa lumière jaillisse. Évidemment, il y a eu des moments où le Seigneur s'est manifesté par la lumière. Voyez-vous? Oui. Mais, qu'entendons-nous par cette notion de gloire? Eh bien, cette notion de brillance, cette notion de quelque chose d'éclatant, de resplendissant, cette notion des parures merveilleuses, brillantes, eh bien, est le sens de ce qu'on appelle, ou de ce que les Grecs ont appelé la doxa. Ça s'écrit comme ça se prononce. D-O-X-A. Voyez-vous? La doxa grecque, eh bien, c'est ça son sens de brillance, de parure resplendissante. Et comme nous avons été influencés par la pensée grecque, la manière grecque de la doxa, comme nous sommes tributaires de la vision grecque de la doxa, eh bien, nous donnons aussi ce sens de brillance à la gloire à chaque fois qu'il en est question. Mais nous devons savoir une chose, c'est que l'Ancien Testament a d'abord été écrit en hébreu. Certes, il y a quelques passages, quelques écrits en araméen, mais dans son ensemble, dans son entièreté, l'Ancien Testament a donc été écrit en hébreu. Alors si nous voulons comprendre la notion même de gloire, il est important que nous nous tournions vers l'hébreu. Et en hébreu, pour aller plus vite, le mot gloire, eh bien, est le mot kabod. C'est ce que nous retrouvons dans cette expression, ikabod. La kabod, alléluia, gloire au Seigneur. La kabod, dans ce mot-là, eh bien, pour aller plus vite, kabod veut dire lourdeur. Parler de la kabod, c'est de parler du poids de quelqu'un, et ce sur tout le plan. C'est-à-dire, C'est parler de la valeur de la personne. C'est de parler de la force de la personne, de la réputation de la personne, voyez-vous, de l'honneur de la personne. Alléluia. Donc, c'est ça la notion de kabod. Et tant que Dieu était parmi son peuple, eh bien, Israël avait du poids aux yeux de ses adversaires. Alléluia. Tant que Dieu était là, mes amis, Israël avait de la valeur. Israël représentait une force incroyable pour tous ses adversaires. Tant que Dieu était parmi eux, personne ne pouvait bouger ce peuple. C'était un petit peuple, mais avec un grand Dieu. Alléluia. Donc Dieu veillait. Lui, le poids lourd, j'ai déjà eu en parler, le poids lourd des sages était présent parmi ce petit peuple. Et à cause de sa présence, aucun peuple, aucune nation n'a pu résister à ce petit peuple-là. C'est Dieu qui était sa force. C'est Dieu qui faisait sa réputation. C'est Dieu qui était sa valeur. C'est Dieu qui était son honneur. En d'autres mots, Dieu était sa kabod. Dieu était sa gloire. Alléluia. Mais hélas, Israël a manqué de sagesse. Israël s'est compromis. Voyez-vous, et résultat, eh bien l'arche est partie. L'arche a été prise et la conséquence, c'est que la gloire aussi est partie. Et comme le poids lourd leur a tourné le dos, le poids lourd, celui qui était leur force, celui qui était leur honneur, celui qui était leur réputation, eh bien, est parti. Résultat, Israël se retrouvait comme une plume parmi ses adversaires. Et quand on a affaire à une plume, on n'a même pas besoin d'utiliser son poing, oui ou non. Ne serait-ce qu'avec son souffle, on fait quoi? Et la plume s'en va. C'est ce qui est arrivé à Israël. Il n'a pas pu résister face à ses adversaires. Voyez-vous, Israël va être humilié. Israël est devenu un poids-plume. Il est devenu une sorte de coton-tige. N'est-ce pas? Eh oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'un coton-tige fasse quelque chose? C'est ainsi que, lorsque les Philistins arrivent pour attaquer Israël, eh bien, c'est la défaite la plus absolue. Non seulement ils sont écrasés, mais même l'arche, qui symbolisait la présence de Dieu, est partie. Et Israël se retrouvait nu comme un ver de terre, incapable de résister à ses adversaires. Vous voyez? Ikabod, période terrible. Mais, ce qui est extraordinaire, c'est que durant cette période-là, dans cette période sombre, eh bien, un homme va faire la différence. Alléluia. Certes, il va vivre les affres de cette période, Ikabod, mais lui va se distinguer. Il va se distinguer, mes amis, par sa fidélité envers le Seigneur. Il ne va pas baisser le bras. Il ne va pas trouver une excuse dans le fait que c'est la période Ikabod pour se compromettre. Au contraire, cette période va le pousser à rechercher davantage son Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cet homme va s'appuyer sur la fidélité de Dieu, s'attendre à lui. Il va rester fidèle. Ça n'a pas été facile, hein? Ça, je vous le dis. Lui aussi a connu le trouble et la confusion. Samuel, malgré tout cela, est resté fidèle. À partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 6, qui résume les 20 années du passage à vide, de la traversée du désert, de la crise sur tout le plan, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, on ne parle plus de Samuel. Pendant 20 ans, cet homme disparaît. Pendant 20 ans, on a l'impression que les phares célestes se sont éteints au niveau de son ministère. Il n'est plus question de lui. Plus les grands prophètes. Il sert le Seigneur cependant dans l'anonymat. Il sait qu'il se tient devant un peuple, qu'il intercède pour le peuple simplement à partir de chez lui à Rama. Une chose est sûre, c'est que Dieu entend sa prière. Alléluia. La période Ichabod va être une période difficile pour l'homme de Dieu. Voyez, il est dans l'anonymat. On ne parle pas de lui. Voyez-vous, ce sont les Philistins qui occupent la scène biblique. Oh, combien d'entre nous, mes amis, passent par cette période Ichabod. Là, je m'adresse aux serviteurs. Voyez-vous, vous passez par des moments difficiles. Vous avez l'impression que le public vous a oublié. Alors ne baissez pas le bras. Que ça ne soit pas une occasion de pouvoir vous compromettre. Mais au contraire, que cette période vous pousse à rechercher absolument la fidélité de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Une période de sécheresse. Une période de crise économique, sociale, religieuse. Une période où l'homme de Dieu disparaît. On ne parle plus de lui. On a tourné la page apparemment, voyez-vous. Mais une période où cet homme a continué à servir son Dieu, même si les autres n'en parlaient pas. Alléluia. Une période où il ne passait plus à la télé. Une période où il n'avait plus l'occasion de prêcher dans des grands meetings. Une période où il ne prêchait plus devant les foules. Oui, il y a des situations comme ça, mes amis, où vous entrez dans une période où tout est noir, où les gens vous oublient, voyez-vous. Au lieu de vouloir forcer le destin, au lieu de vouloir provoquer les choses, mon frère et ma sœur, eh bien, reste attaché à ton Dieu, car tôt ou tard, il te fera sortir de cette période, Ichabod, et te fera entrer dans la période d'Ebenezer. Alléluia. Cette période, qu'elle dure 5 ans, qu'elle dure 10 ans, mais tant qu'on est fidèle, mes amis, elle finira par disparaître. Et Dieu nous visitera, ou nous revisitera, il nous prendra de nouveau, et il nous mettra sur la scène. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, dans une société où l'image occupe une place importante, dès lors qu'on ne parle plus de quelqu'un, dès lors que la personne n'a plus l'occasion d'être vue, d'être écoutée, eh bien la personne pense qu'elle ne vaut plus rien. Oui ou non? C'est ainsi que certains essayent de provoquer, de chercher par tous les moyens à passer sur tel autre plateau de télévision, alors même qu'ils n'ont rien à dire, rien à apporter. C'est simplement pour paraître, pour qu'on voit qu'ils sont encore là. Oui, les gens peuvent se rendre et vous êtes encore là. Ce qui est important, c'est que Dieu continue à voir que vous êtes là. Même dans l'anonymat, même dans l'oubli, même là au temps envoyé, dans le fin fond de la province orientale, reste fidèle. On ne te voit pas, mais Dieu te voit. C'est une période des preuves où Dieu veut voir que tu l'aimes pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il fait pour toi. Que tu l'aimes, non pas parce que tu passes à la télévision, non pas parce qu'on t'écoute à la radio, mais tu l'aimes pour ce qu'il est. Que ça soit à Kinshasa, que ça soit quelque part à Ankoro ou je ne sais où, eh bien Dieu te voit. C'est la période Ichabod. Inspire-toi de la vie du prophète Samuel. Pour les autres, c'est la même chose. Il y a des périodes, combien ont perdu leur poste, voyez-vous, par un remaniement. Et puis c'est fini. Ils ont sombré dans l'anonymat et dans l'oubli. Combien, mes amis, et mon frère et ma sœur, n'essaye pas de t'agiter. N'essaye pas de traiter tout le monde de diable. N'essaye pas de croire que le monde entier est contre toi. Tu es peut-être en train de vivre ce que Job a vécu. La période Ichabod est une période que nous rencontrerons d'une manière ou d'une autre. Soit à cause de nos péchés, alors examine-toi. Quand tu étais aux responsabilités, quelle était ta vie? Comment tu marchais? Voyez-vous, C'est beaucoup plus facile de s'en prendre au chef, quel qu'il soit, à son directeur, quel qu'il soit. Mais il faut d'abord et avant tout regarder sa propre vie. Voyez-vous, Ichabod, c'est une période terrible. Alléluia. Mais c'est une période qui est appelée un jour à disparaître. Si pour Samuel, il est resté fidèle, il a continué à servir Dieu, à s'appuyer sur la fidélité. Le dimanche prochain, je reviendrai sur cette notion de fidélité à partir de deux mots que l'hébreu utilise. Ces deux mots sont traduits tantôt, enfin dans nos versions françaises du moins, tantôt par vérité, tantôt par fidélité, parce que les deux vont ensemble. Parce que Dieu est fidèle, il est véridique. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur nous est révélé comme étant le fidèle et le véritable. Et nous allons voir que fidélité est intimement liée à la notion de solidité. Alléluia. Il s'est appuyé sur la solidité de Dieu. Le fait que Dieu ne change pas. Il ne peut pas être ébranlé, mon frère et ma sœur. Il a compté sur cette fidélité. Il a dit, tu es fidèle, même si je suis dans le noir, même si je suis dans l'épreuve, même si je n'ai plus rien à manger. Tu es fidèle, tôt ou tard, eh bien tu me démontreras ta fidélité. Mais lorsqu'on connaît, avant de terminer, on connaît la période Ichabod, parce qu'on avait pris de mauvaises décisions. On avait fait des mauvais choix. Lorsqu'on se retrouve dans cette situation de crise, d'adversité, d'épreuve, simplement parce qu'on a eu une vie de désobéissance à Dieu, comment alors sortir de cet état pour entrer dans cette expérience de Ben-Ezer, c'est-à-dire Dieu comme étant la pierre du secours? C'est ça le sens en hébreu. Normalement, c'est Eben Haezer, la pierre du secours, alléluia. Le secours grand S. Eh bien, pour Israël, comment revenir? Comment sortir de cet état? 20 ans après, 20 ans d'humiliation, il y a eu un déclic, alléluia. Le peuple a compris que tout ce qui lui était arrivé était la conséquence de choix abominables, de choix terribles faits, de choix qui les avaient amenés à tourner le dos au Seigneur. Comment ont-ils quitté cet état-là? Comment tu peux quitter cet état si telle est ta situation? Eh bien, la réponse se trouve dans le texte que nous avons lu. Le peuple d'Israël est sorti de cette période Ichabod en ayant eu une démarche claire, en passant par un processus. Ils ne sont pas sortis simplement comme ça, on jeûne 40 jours, et puis c'est fini, on lit les démons, dit Kabod, et puis c'est fini, pas du tout. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Et c'est ce que tu devrais faire, mon frère et ma sœur. Si tu es conscient, si tu es consciente que tu es dans cette situation à cause de la désobéissance à la parole de Dieu, à cause d'une conduite abominable aux yeux de Dieu, alors suis ce qu'Israël a fait. Car ce qu'il a fait, eh bien, a permis à Israël de quitter cette période, de quitter ce temps de crise et d'entrer dans une expérience de Ebenezer. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Premièrement, Israël a reconnu son état. Voilà la première chose. Il a réalisé sa culpabilité. Israël n'a pas essayé de trouver des excuses. Israël s'est dit, tout ceci nous est arrivé parce que nous avons péché contre Dieu. Alléluia. Il a reconnu son état. Il a reconnu sa culpabilité. Mais il n'est pas resté au stade de la culpabilisation en disant, oui, nous avons mal fait, c'est de notre faute, etc. Deuxième chose. Ce qu'Israël a fait, après avoir reconnu son état, c'est qu'il est revenu au Seigneur, alléluia. L'expression revenir à Dieu dans le contexte vétérotestamentaire, donc de l'Ancien Testament, eh bien, veut dire revenir à Dieu pour se réconcilier avec lui. Ceci implique donc une démarche de repentance. Se repentir. Il a reconnu son péché. Il a pris la décision de se débarrasser de l'idolâtrie. De débarrasser la terre d'Israël de toutes ces idoles, ces faux dieux, ces Baals et ces Astartés. Ensuite, Israël a purifié la terre. Cette terre qui avait été souillée par l'idolâtrie. Troisièmement, un agneau a été sacrifié. Alléluia. Samuel a pris un agneau qu'il a offert en holocauste. Du sang a coulé. Alléluia. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de réconciliation. Il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, quelle que soit la crise, dû au fait que tu passes par la période Ikabod, le sang de Jésus est capable pour te pardonner, pour effacer la culpabilité. Alors, répands-toi. Ne dis pas ce que j'ai fait, c'est quelque chose de terrible. Il n'y a pas de péché qui ne puisse pas être pardonné. Il n'y a pas de péché, mes amis, qui soit impardonnable. En dehors de ce que la Bible dit par rapport au Saint-Esprit, mais tout ce que l'homme fait, eh bien, peut être pardonné. Dès lors que le coupable reconnaît sa culpabilité, se repent et fait appel au sang que Jésus a versé à la croix de Golgotha. Lui, l'agneau de Dieu, c'est le seul. Alléluia. Faire appel au sang de l'agneau. Ensuite, après tout ça, Samuel a prié. Samuel a crié au Seigneur. Et les résultats, nous l'avons lu, c'est que le Seigneur a répondu. Alléluia. Samuel voit sa prière exaucée. Samuel voit que Dieu accepte la démarche du peuple d'Israël. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle. Parce que la fidélité de Dieu est un trésor inestimable. Parce que dans sa fidélité, Dieu est toujours là pour venir à la rencontre de l'homme ou de la femme qui se repent. C'est là que Samuel, après que Dieu ait répondu en donnant la victoire au peuple d'Israël sur les Philistins, il va dresser une pierre qu'il va appeler Ébène. Ébène en hébreu, c'est pierre ou ébène. Comme je vous avais dit, c'est pareil en hébreu. Ébène ou ébène, c'est la même chose. La pierre, Ébène à Ézer ou Ébène Ézer, ça veut dire la pierre du secours, en disant, jusqu'ici, jusque maintenant, le Seigneur nous a secourus. Il a été notre pierre de secours. Alléluia. Jusqu'ici, cette expression jusqu'ici, d'autres versions disent jusque maintenant, eh bien, a deux sens. Et ces deux sens sont là et se recoupent. Elle a un sens d'abord temporel. Jusqu'ici, dans le temps, le Seigneur nous a secourus. Alléluia. Aujourd'hui, jusqu'ici est valable. Demain, mais cette expression a aussi sa valeur spatiale. Là où je suis. Alléluia. Sa valeur géographique. Jusqu'ici, le Seigneur nous a. Gloire au Seigneur. Et ils ont proclamé, Ébénézer, haut et fort, le Seigneur nous a secourus jusqu'ici, dans cet endroit. Jusqu'ici, maintenant, au terme d'une telle démarche, on ne peut qu'expérimenter la grâce de ce Dieu qui se révèle comme étant le vrai Eben Ezer, la pierre du vrai secours. Gloire à Dieu. Et là, Eben Ezer, non seulement c'est le lieu de la victoire, le lieu de la réhabilitation, le lieu où Israël retrouve sa position perdue, mais Ébénézer est aussi le lieu où Israël célèbre la fidélité de son Dieu. Dieu est fidèle, alléluia. Et nous avons besoin de pouvoir expérimenter le fait qu'il est celui qui se révèle comme étant la pierre du secours par excellence, comme étant celui qui se révèle comme Ebenezer. Mon frère et ma sœur, c'est plus qu'une expression. C'est un état dans lequel on entre, où nous expérimentons le secours de Dieu. Mais ce secours-là ne nous arrive pas au hasard. Il faut une démarche. Et cette démarche, Israël l'a faite. Et Dieu, dans sa fidélité, eh bien, il a de nouveau accueilli son peuple. Il lui a donné la victoire. Alléluia. Oui, Ichabod. Mais Dieu voudrait que nous quittions Ichabod et que nous entrions dans cette expérience d'Ebenezer. Car là, il nous donne son secours parce qu'il est fidèle. Alléluia. Il n'y a rien que nous fassions, mes amis, qui puisse amener Dieu à se débarrasser de cet attribut. Nous en parlerons le dimanche prochain. Dieu, pour Dieu, la fidélité n'est pas une qualité. Pas du tout. La fidélité est l'expression même de son être divin. Alléluia. En cela, nous pouvons nous attendre à ce qui se révèle comme le Dieu d'Ebenezer, parce qu'il ne peut pas se renier. Alléluia. Parce qu'il ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il nous a donné comme parole, ce qu'il nous a donné comme promesse. Amen. Nous allons incliner nos têtes. Je voudrais demander à chacun de nous d'examiner sa vie et de voir dans quel état, dans quelle période de ta vie tu te trouves. Si tu réalises que tu es dans la période Ichabod, à cause de choix mauvais que tu as fait, des décisions que tu avais prises et qui ont amené Dieu à lever sa main, tu peux aujourd'hui te repentir et demander pardon à Dieu. Tu peux aujourd'hui te tourner vers le Seigneur et crier à lui. C'est seulement par cette démarche de repentance, de réconciliation avec lui, d'appel à l'œuvre de la croix. Voyez-vous? De cette démarche de rechercher sa fidélité, c'est seulement au terme de cette démarche que Dieu pourra se révéler comme étant le Ebenezer qui jusqu'ici, jusque maintenant, où que nous soyons, nous secours. Alléluia. Alors si tu es là, tu peux lever ta main, si tu as besoin de repentance, pour revenir à Dieu, afin qu'il t'aide à sortir de cette fournaise Ichabod. Merci pour ceux qui lèvent leurs mains. Merci. Merci. Veuillez vous lever, vous qui avez levé vos mains, et nous allons prier. Vous allez vous repentir. Vous allez demander pardon. Vous allez reconnaître vos péchés, tout ce que vous avez fait et qui ont amené Dieu à vous tourner le dos et par conséquent qui vous ont amené, vous, à entrer dans cette période de crise, dans cette période Ichabod. Commencez à demander pardon si je vais prier pour vous. Alléluia. Demandez pardon et faites appel au sang de la croix. Car à la croix, il a tout accompli. À la croix, il a tout fait. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, je voudrais te recommander ces personnes qui se sont levées. Parce que tu leur as parlé. Parce qu'elles ont réalisé qu'elles sont dans une période difficile. La période Ichabod. Une période terrible à cause de leurs péchés, à cause de leurs manquements, à cause des mauvais choix qu'ils ont faits. Mais ce matin, tu leur as parlé. Ce matin, ils ont répondu, Seigneur, à ton appel. Ils se tournent vers toi. Accorde-leur ton pardon. Donne-leur, Seigneur, de saisir ton pardon, ô Dieu, et de se jeter entre tes bras, entre tes mains, et afin que, Seigneur, tu puisses te révéler à eux comme étant la pierre du vrai secours, Ebenezer. Oui, fais-les sortir de cette période et conduis-les jusqu'à Ebenezer, afin qu'ils expérimentent, Seigneur, la victoire, qu'ils retrouvent ce qu'ils avaient perdu dans cette période-là. Merci, Maître, de bénir ces frères et sœurs et de les aider au nom de Jésus. Merci aussi, Seigneur, pour ce moment consacré aux offrandes et aux dîmes. Veuille poser ta main, ô Dieu, sur les paniers alors qu'ils vont circuler. Et bénis tous ceux, ô Dieu, qui par leur fidélité envers toi, le fidèle véritable, Seigneur, soutiennent cette œuvre et permettent à ce que ta parole soit annoncée, permettent à ce que ton règne se manifeste de plus en plus. Merci Jésus. Merci Maître. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oh là là.
Alléluia. Que le nom du Seigneur soit